SILAB,
en partenariat avec Rennes Métropole,
présente
Jeunesse des possibles.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Caroline, vous êtes sur Radio SILAB, il est 13h et vous écoutez la Jeunesse des possibles, émission proposée par Rennes Métropole. Aujourd'hui, nous clôturons ce cycle de réflexion entrepris depuis plusieurs semaines déjà sur la diversité culturelle. Depuis novembre dernier, nous échangeons sur Radio SILAB et pendant des petits déj d'outillage sur ce thème afin d'appréhender l'ensemble des enjeux que l'interculturalité recouvre. Différents sujets ont émergé de nos discussions, la cuisine comme souvent, l'identité, les droits culturels, beaucoup d'autres dont les langues. C'est ce dont viennent aujourd'hui nous parler nos trois invités. L'association Langophonie est avec nous. Comme sous-entendu dans son nom, sa spécialité, c'est les langues. Et Irénée, salariée de l'ASSO, pourra nous en témoigner. Bonjour Irénée.
Bonjour.
Puis Anne-Françoise, donc référente du pôle adulte famille à la maison des Squares située dans le quartier du Blône. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Et enfin, Delphine Comelin de la réussite éducative pour la ville de Rennes est également autour de la table. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Irénée, tu fais partie de l'asso Langophonie. Son objet est de mettre en valeur les richesses linguistiques et culturelles à Rennes à travers des cours de langue, des ateliers. Vous faites une place à toutes les langues ainsi qu'à toutes les cultures sur le territoire. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps l'asso Langophonie a été créée à peu près ?
On a créé l'association en 2014 et on est en activité plutôt 2015. Courant 2015, et puis on est implanté au quartier du Blône, secteur Italie, depuis septembre 2015.
Et du coup, à quel moment la nécessité de créer cette association sur la thématique des langues est devenue indispensable ? Ça répondait à un besoin fort, une demande des habitants, ou c'était un projet que vous aviez à l'esprit depuis longtemps ?
C'est venu d'abord de nous, trois collègues du master francophonie échange interculturel du laboratoire Préfix ici à Rennes 2. C'est un master recherche et nous avions, en finalisant ce master, plutôt l'envie et le désir d'essayer d'appliquer cette recherche, d'une part la vulgariser, d'autre part innover, expérimenter des outils pour créer des temps de médiation interculturelle, des temps de partage, et puis aussi, très explicitement, lutter contre des constats sociologiques, sociolinguistiques, faits comme l'existence de discrimination linguistique ou la dévalorisation des langues et des personnes.
Et du coup, vos actions principales, c'est des formations, des ateliers. Est-ce que tu peux nous présenter
Oui, comme tu as dit, il y a un volet, c'est programme de langue des Français, langue étrangère, avec une approche interculturelle. Et nous faisons aussi des activités destinées aux enfants et aux familles. C'est ce qu'on appelle l'éveil aux langues. C'est un outil d'approche plurielle où on fait découvrir et on essaie de valoriser les langues du monde et les langues des participants, des enfants et des familles participantes. Nous faisons aussi des activités de sensibilisation plus large public. Et pour les adultes, nous avons un volet atelier de conversation sur les quartiers. Et nous avons aussi des formations à particuliers ou professionnels sur ces approches-là, sur ces notions-là de médiation interculturelle, d'approche interculturelle et sur les outils plus concrets qu'on peut proposer.
D'accord, donc c'est une approche vraiment globale en fait de la thématique langue avec différents outils. Tu disais tout à l'heure donc que vous travaillez au Blône. Ouais. Et alors justement, nous avons avec nous Anne-Françoise donc, qui travaille à la Maison des Squares, qui est une association d'éducation populaire implantée sur le quartier du Blône. Tu travailles donc en lien avec des enfants, des jeunes, des familles pour proposer différentes actions de proximité, des activités en lien avec la participation des habitants. Quatre axes sont mis en pratique à la Maison des Squares, donc l'accueil des habitants, les actions à destination des enfants, donc il y a un accueil de loisirs, un accompagnement à la scolarité, etc. Et puis il y a aussi tout un accompagnement ou des activités à destination des adultes et des familles, et un pôle multimédia. J'ai bien tout dit ?
Ouais, c'est bien. Mais moi, je ne fais pas tout ça. Hein.
D'accord.
On est neuf.
Une grosse équipe, du coup, pour de nombreux projets. Et alors, à quel moment la question des langues s'est intégrée, en fait, à vos actions au sein du quartier ?
Bon, en fait, la Maison des Squares a été créée en 1974, je crois. Les cours de français ont toujours été, enfin, quasiment depuis le départ, proposés par la Maison des Squares. Avant, en fait, on prêtait des salles au CLPS. Le CLPS, c'est le centre de formation qui fait des cours qui sont financés par l'État, en fait, des cours de français. Et progressivement, le CLPS est parti ailleurs, dans d'autres locaux. Et il a laissé deux bénévoles avec deux groupes. Et moi, quand je suis arrivée, en fait, il y avait une bénévole qui partait et on a reconstitué voilà, ce groupe-là pour pas perdre les gens. Et puis, ben, fort de notre succès, maintenant, on a quatre groupes voilà, qui fonctionnent deux fois par semaine parce qu'il y a une demande forte d'apprentissage du français sur le territoire.
Voilà. Et alors pour ça, vous travaillez avec de nombreux acteurs sur le quartier, j'imagine.
On travaille avec de nombreux acteurs sur le quartier, mais aussi sur la ville, puisqu'en fait, depuis quelques années, on travaille avec l'association Langue et Communication, qui anime une plateforme d'accueil pour les personnes d'origine étrangère, qui évalue le niveau linguistique, leur niveau linguistique pour les personnes qui veulent apprendre le français, et qui après les réoriente vers toutes les associations sur la ville et même sur la métropole. En fonction de leur niveau et de leur projet.
D'accord. Ouais. Et du coup, alors, toute personne peut avoir accès à cette plateforme ou comment c'est...
Oui, alors en fait, souvent, en fait, on appelle avec les personnes, il y a un numéro, il n'y a pas toujours de la place parce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes sur le territoire. Mais on appelle avec les personnes pour qu'elles ne soient pas... Voilà, parce que c'est compliqué de téléphoner...
Oui. Et alors, du coup, donc Delphine de la réussite éducative est parmi nous aussi. Vous travaillez donc pour la ville de Rennes. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots vos missions ?
Alors, le projet de réussite éducative, effectivement, est un service de la ville de Rennes avec des cofinancements État, ville de Rennes et de la CAF, qui a pour objectif d'accompagner les enfants dans leurs projets personnalisés. Ça concerne les enfants de 2 à 16 ans qui vivent ou sont scolarisés dans l'un des 5 quartiers politiques de la ville. Donc pour ça, on a 2 modalités d'action. On a des accompagnements individuels des enfants. C'est des accompagnements volontaires avec adhésion des parents et des jeunes. Et on a 3 animateurs famille éducation qui développent des actions collectives avec les parents dans 3 quartiers, Villejean, Le Blône et Morpa. Des outils qu'ils utilisent, c'est notamment les espaces parents qui sont présents dans certaines écoles de la ville de Rennes.
Et alors, qu'est-ce que c'est exactement ces espaces parents ?
Les espaces parents, c'est vraiment des lieux dédiés aux parents des écoles primaires dans lesquelles ils peuvent se retrouver de façon conviviale. Alors, avec l'intervention des animateurs famille éducation, il y a vraiment des rendez-vous donnés pendant la semaine autour de cafés pour échanger entre parents sur des thématiques liées à l'éducation, mais qui... peuvent aussi s'inscrire plus largement dans des questionnements des familles. Et puis aussi proposer des temps parents-enfants voilà, à la sortie de l'école. Et à partir de ces temps-là, ben, y a de l'émergence d'expression des parents qui va découler sur des projets. Je pense à des projets comme des formations premiers secours sur Villejean, tout un projet mené avec les écoles du quartier sur Morpa sur les usages des écrans dès le plus jeune âge. Voilà, l'idée c'est vraiment de construire des projets avec les parents.
D'accord, donc c'est vraiment la mission réussite éducative très large en fait et englobante aussi bien en termes de partenaires qu'en action. Alors, à la suite des différents échanges qu'on avait eus dans le cadre des petits-déj outillages, ce qui a un peu interpellé les participants sur la question des langues, c'est que justement, ils se disaient, c'est rigolo parce qu'il y a plusieurs années, on nous disait à nous, parents ou enfants, non, il ne faut surtout pas parler autre chose que que le français chez soi, parce que bah voilà, sinon vous arriverez jamais à vous intégrer ou à bien apprendre le français. Et on voit qu'il y a un vrai revirement sur ce positionnement là. J'imagine que la mission réussite éducative, je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais a également fait ce revirement là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, pourquoi en fait ce changement? Est-ce qu'il y a eu des études ou ce genre de choses, ou c'est d'où ça vient?
Alors, le projet de réussite éducative, il a été initié au niveau de la ville depuis 2006, donc c'est vrai que du coup maintenant on a du recul, et c'est vrai que on était sollicité par les professionnels pour accompagner les enfants dans leurs difficultés d'acquisition de la langue de ce qu'on appelle de scolarisation, donc le français. Et c'est vrai qu'on a vu les pratiques changer entre il faut absolument parler français, madame, monsieur, parlez absolument français à vos enfants. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on développe de la connaissance là-dessus, qu'on fasse vraiment attention à favoriser l'acquisition de cette deuxième langue, mais avec l'intuition qu'il fallait aussi valoriser la langue familiale. Donc on s'est appuyé effectivement de l'expertise de Rennes 2. On est allé aussi chercher l'expertise de Marie-Rose Moreau et de toute son équipe du Centre Babel à Paris, pour vraiment éviter de mettre les enfants dans du conflit de loyauté et plutôt dans une démarche de valorisation de cette richesse culturelle qu'est le multilinguisme, pour faire en sorte d'éviter de mettre les enfants dans des conflits de loyauté.
Et du coup, l'association Langophonie, vous êtes vraiment dans cette démarche-là de valoriser toutes les cultures. Donc, en fait, en reconnaissant presque la langue comme un outil pour la diversité culturelle, vous avez différents instruments pour pouvoir développer ça. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns comme des jeux? Parce que votre approche qui est hyper intéressante, c'est que c'est très ludique, en fait.
Oui. Effectivement, pour nous, la langue, c'est un fort levier d'action. Quelque part, c'est la partie émergée de l'iceberg qui peut être la culture, ou qui peut être aussi la composition identitaire de chacun, qui est toujours pluriel et toujours un peu complexe. Et du coup, on essaye de... Donc, en utilisant la langue un peu comme prétexte de créer des temps d'échange, donc des façons ludiques, je pense notamment... Pour les enfants, on met en place des activités d'éveil aux langues. Ce sont des activités qui vont, dans un premier temps, faire découvrir par l'écoute, par l'écrit, différentes langues aux enfants. Et pour démystifier un peu le fait qu'il faut toujours parler français. Et ensuite, on va mettre les enfants dans une situation un petit peu de recherche ou de déduction, de devoir comprendre ou s'exprimer dans différentes langues, pour faire aussi ressortir les possibles bagages multiples, le bagage linguistique, je veux dire, des enfants, et mettre du coup sous un pied d'égalité toutes les langues et toutes les pratiques langagières. Donc ça peut être des jeux, ça peut être à partir des lectures d'albums ou des comptines. Après, ils vont devoir aussi des fois peut-être eux-mêmes recréer des histoires ou dans lesquelles on va les forcer à utiliser des mots dans des différentes langues pour favoriser une expression plurilingue.
Ah oui, ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que dès le plus jeune âge, en fait, on légitime un peu toutes les langues, toutes les cultures, toutes les approches. Donc c'est ça aussi qui est intéressant parce que bon, on a l'habitude à la jeunesse des possibles de s'adresser peut-être davantage à un public étudiant ou de professionnel jeunesse, alors que en fait la question des langues, ce qui finalement quand on y pense paraît un peu logique, dès le plus jeune âge en fait c'est quand même déterminant en termes de positionnement. Enfin c'est ça qui change un peu et qui rend quelque part la question intéressante. Et alors du coup la maison des squares, vous qui êtes un accueil ouvert où vous recevez toute une foule de personnes aux profils différents, aux langues différentes, aux cultures différentes. Alors, il y a tout un accompagnement par le biais de cours de français ou d'accompagnement à la scolarité. Est-ce que vous avez d'autres moments, d'autres lieux, d'autres rencontres pour valoriser la diversité culturelle en utilisant les langues?
En fait, on propose effectivement des ateliers de français, mais apprendre le français, ça ne veut pas dire oublier sa langue et tout de façon transversale. En fait, dans toutes les actions, on reprend, enfin voilà, on essaie de valoriser ce que les personnes ont à nous apporter. Enfin, voilà, on voit ça vraiment comme une richesse et pas comme comme une obligation à faire. Enfin voilà, l'idée c'est de valoriser vraiment ce qu'apportent les personnes
individuellement. Ouais.
Oui, d'accord. Tout à fait.
Et alors, la coïncidence du jour, c'est que vous avez toutes participé à une rencontre formation le lundi 28 janvier dernier. On va faire une petite pause musicale et puis vous nous en parlerez après. Merci beaucoup. Écoutez La Jeunesse des Possibles, c'est Caroline. Je suis avec Anne-Françoise de la Maison des Squares, Delphine de la Réussite Éducative de la Ville de Rennes et Irénée de l'association Langophonie. Nous échangeons avant la pause sur l'interculturalité et plurilinguisme. Nous avons avec nous donc trois expertes pour en parler. Si, expertes, j'insiste. Alors, effectivement, le lundi 28 janvier dernier, il y a eu une journée de formation avec des ateliers, des conférences dans le quartier du Blône autour donc de l'interculturalité, mais sous le prisme langue. Vous étiez toutes les trois présentes en tant qu'acteurs sur cette thématique à l'échelle de Rennes Métropole, mais aussi parce que vous développez différentes actions sur le quartier du Blône. Ce que je trouverais intéressant, c'est que vous puissiez nous en dire quelques mots en fait de cette journée. Delphine, vous qui avez co-organisé avec de nombreux acteurs cette journée, pourquoi cette volonté de former des professionnels à la question du plurilinguisme ?
Ce qui est apparu dans les accompagnements individuels, c'est vraiment cette question de l'acquisition de la langue, des difficultés que pouvaient rencontrer les enfants et les familles par rapport à ça, et la volonté vraiment des professionnels du quartier du Blône de réfléchir ensemble à cette question et surtout de se construire une culture commune par rapport à ça. Et l'intérêt de cette journée, c'était vraiment de permettre à des professionnels de tous les domaines, du social, de la santé, de l'éducation, les structures de quartier, de vraiment se rencontrer pour aborder cette question-là. On avait même le conservatoire qui était présent. Donc, des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui vraiment avaient envie de travailler cette question de l'interculturalité sur une journée entière, voilà, avec des apports, mais aussi de la réflexion et réinterroger nos postures professionnelles aussi. Voilà.
Et du coup, suite à la présence de nombreux acteurs de tout le territoire, est-ce qu'il va y avoir d'autres moments de rencontre et d'échange autour de cette question-là? Voilà, tu parlais du conservatoire. Est-ce qu'à un moment donné, ils se sont dit, bah voilà, ça, c'était très intéressant, ça nous intéresse tant que on serait curieux de participer à d'autres moments?
Complètement. Là, c'est vraiment l'idée que ça continue une dynamique, parce que j'insiste sur le quartier du Blône. Il y a vraiment une dynamique des partenaires de travailler ensemble et on était déjà quelques-uns, hein, Maison d'Espoir, Langophonie, on a l'habitude de travailler ensemble sur cet enjeu des langues. Mais là, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir à de nouveaux acteurs. Et oui, il y a envie de cette dynamique qui a été lancée le 28 janvier de poursuivre. Donc, on va se donner un nouveau rendez-vous au cours des prochains mois pour voir aussi comment ça a transformé nos pratique et voir aussi comment on a pu travailler ensemble différemment dans l'intérêt des enfants et des familles.
Et ce que tu disais aussi d'intéressant, c'est que donc, la réussite éducative a co-organisé, mais que c'était aussi une volonté des acteurs de terrain, à un moment donné, de réfléchir collectivement sur cette thématique-là. Et justement, donc, la maison des Squares a participé à cette journée de formation. Anne-Françoise, est-ce que tu peux témoigner des échanges qu'il y a pu avoir? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant ou nouveau?
Alors moi, ce que j'ai, ça a effectivement conforté mon idée sur l'importance de garder du plurilinguisme. Et puis effectivement de pouvoir en discuter avec des instits, des directrices d'école, du quartier, et de pouvoir faire commun quoi sur cette question-là, ce qui n'était pas le cas. Il y a quelques années, moi je suis dans le quartier depuis 2005 et effectivement le discours il n'était pas le même. Le discours il était il faut parler français tout le temps à ses enfants et là elle nous a redit l'intervenant du matin effectivement cette question là qui est très 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 bête mais la langue du cœur c'est la langue maternelle la langue maternelle c'est la langue du cœur et c'est celle avec qui on dit je t'aime à ses enfants voilà et du coup c'est ça qui est important. Le français ça va être la langue administrative, la langue du la langue de ce qu'ils veulent d'ailleurs mais l'important c'est de garder les deux ou trois ou quatre d'ailleurs, parce qu'on est dans un quartier où les gens parlent plusieurs langues, pas que deux.
Ouais, donc du coup, ça a une dimension très individuelle et très forte, en fait. Il ne s'agit pas de négliger ces différents niveaux de langue, en fait, qui sont propres à chacun. Irénée, vous qui êtes dans une asso qui valorise les langues, est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard sur l'importance de valoriser toutes les langues pour, quelque part, mettre toutes les cultures ou chaque individu sur un pied d'égalité et vraiment valoriser cette diversité culturelle?
Oui, parce que moi, en lien avec ce que disait Anne-Françoise, comment ça a changé? Nous, on trouve que ça change, effectivement, c'est que l'idée que les langues ne vont pas être en concurrence. Et il y a un besoin très important qui est ressenti par l'école, par les intervenants, par les accompagnateurs médico-sociaux, et qui est ressenti aussi par les familles, c'est ce besoin de parler, de maîtriser le français, parce que c'est la langue commune. Mais ceci n'est pas en détriment des autres langues et elles ne sont pas en concurrence. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'acquiert pas une langue en oubliant les autres. Et que ce soit quand on est tout petit, quand on peut acquérir le langage, c'est-à-dire apprendre à parler dans une langue ou dans plusieurs. On peut faire une acquisition de langage plurilingue. On peut faire une acquisition monolingue et par la suite apprendre de nouvelles langues. C'est pas impossible, mais c'est vrai que ça demande des fois des changements de posture au niveau professionnel. Et c'est certaines professions, disons, même si les choses commencent à changer, on sent que les formations sont encore... on sera encore un peu loin. Et cette idée-là de que les langues, c'est difficile et on apprend d'abord à parler une langue et ensuite, quand on la maîtrise, on peut prendre une autre, elle est fausse. Mais elle est aussi très ancrée en France parce qu'on est quand même un pays, et, comme d'autres pays en Europe, très monolingue, qui sont construits autour d'une seule langue qui doit être les socles communs. Et du coup, on a du mal à penser que les langues ne sont pas en concurrence et elles interagissent dans notre cerveau comme on interagit entre nous en différentes langues, en mélangeant même les langues. Et c'est vrai qu'il y a un changement de posture, mais il y a aussi besoin des fois de certains outils, en fait, des nouveaux outils dont on a vu. Moi, j'étais surprise par cette journée de voir autant d'acteurs et autant d'acteurs du milieu différent, éducation nationale, du milieu médical. J'ai été surprise et satisfaite, ça, comme on disait en français, ça conforte. Mais je pense, par exemple, pour le milieu médical, il y a encore besoin des outils. Par exemple, pour diagnostiquer des retards de langage, il est impossible de diagnostiquer un retard de langage à un enfant plurilingue dans une seule langue, en français. Et encore, les professionnels, ils sont formés pour... et ils ont les outils en français. Et c'est là qu'il y a des choses qui doivent changer. Et il faut mettre aussi les moyens pour que ça change.
Et du coup, en plus, c'est vrai que moi, je trouve, plus on s'intéresse finalement aux différentes langues, et puis ça explique aussi des choses dans notre propre langue. Enfin, je veux dire, les langues sont un peu liées, en fait. Et la communication, finalement, entre des personnes... peu importe en fait le support, ce qui compte c'est voilà l'échange quoi. Donc c'est vrai que pour ça les moments de rencontre dans le cadre des ateliers d'éveil aux langues que vous proposez sont super intéressants. Et d'ailleurs c'est quand le prochain? Et c'est quelle langue à chaque fois? C'est une langue différente?
Non, on prévoit... c'est pas souvent qu'on prévoit à l'avance quelle langue on va aborder. On utilise plutôt de support multilingue. Bon, quand c'est moi qui anime, je me sers beaucoup de ma langue maternelle, qui est l'espagnol, mais j'essaie de faire de la place à d'autres langues. Et là, pour les prochaines dates, en fait, tu me poses une colle parce qu'on n'a pas encore fixé.
Pardon.
On organisera sans doute vacances d'avril.
Vacances d'avril. Et du coup, la Maison des Squares, est-ce que vous avez des actualités autour de cette thématique de l'interculturalité ou du plurilinguisme? Non. Enfin, vous, de toute façon, vous accueillez tous les jours différents publics. Voilà. Et en fait, quelque part, la communication, l'accueil, l'interculturalité, vous le faites aussi dans...
Oui,
dans
c'est
l'accueil.
Ça, c'est vraiment transversal. Là, en ce moment, on est pendant les vacances scolaires qui ont commencé hier. Donc, c'est le centre de loisirs à fond la caisse. Et puis, on va reprendre des activités avec les adultes à la fin des vacances, quand les enfants auront repris le chemin de l'école.
D'accord. Et du coup, Delphine, il va y avoir donc sans doute d'autres rencontres ou d'autres moments d'échange sur cette question-là des langues. Est-ce que sur la question de la réussite éducative, il y a des actualités aussi dont tu voudrais nous faire part ou des projets sur d'autres quartiers? Parce que là, c'était au Blône, alors même s'il n'y a pas uniquement des acteurs du Blône et que ça s'est un peu étendu à d'autres acteurs de la ville de Rennes.
Alors, sur la question de l'acquisition de la langue et de l'interculturalité, il y a d'autres quartiers aussi qui souhaitent engager une réflexion un peu à l'image du Blône. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller et que de bien respecter aussi chaque dynamique de territoire. Donc voilà, ça va être sur les prochains mois des quartiers qui ont envie aussi de proposer ça à leurs partenaires. Et puis, en termes d'actualité, c'est toujours de se saisir de la réflexion qui est faite à l'échelle du quartier pour remonter aussi des temps forts comme ça, de réflexion partagée, donc avoir les thématiques qui vont ressortir. Ce que je voulais vraiment dire, c'est aussi que ce qu'on a dit aujourd'hui, c'était la valorisation de toutes les langues et de leur donner une place aussi. C'est ça qui est ressorti de cette journée-là, donner la place aux autres langues pour permettre aussi la place aux Français dans chacune des familles, quoi.
En tout cas, merci à toutes les trois d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve tout de suite pour le Point Actu.
Jeunesse, t'es possible.
Rendez-vous pour les 10 ans du Festival Urbaine qui commence le 20 février et qui durera jusqu'au 10 mars prochain. Cette structure jeunesse porte cet événement et mettront donc plusieurs pratiques artistiques de la rue en avant. Donc n'hésitez pas à participer à tous ces moments d'échange, de rencontres. Consultez le programme, c'est 20 jours de culture artistique urbaine diverse et variée, ouverte à tous. Les prochaines NDKJ, c'est mercredi 27 février et jeudi 28 février. Mercredi, donc rendez-vous au grand rendez-vous à un grand fest-noz. Trois assos étudiantes organisent Fest & Brest qui aura lieu aux Libertés de 20h à 1h du matin. Et le jeudi 28, rendez-vous pour soirée un des sens qui aura lieu au Bliss, donc à la patinoire. Spectacle, concert, activités ludiques. N'hésitez pas à venir nombreux. Le prochain petit-déj outillage aura lieu au Cercle Paul Bert, Rapatel La Poterie. La thématique, c'est les représentations que l'on a des jeunes. Rendez-vous jeudi 28 février de 9h à 11h pour échanger et s'outiller entre professionnels jeunesse. Pour plus d'infos ou vous inscrire, contactez la mission jeunesse de Rennes Métropole. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour présenter vos projets et l'initiative sur le quartier du Blône qui s'est développé. Merci à Aurélien de Radio Syllab. Merci à vous tous de nous écouter et belle journée.